Salón. Serena va commencer. Elle va vous parler du GAC, le comité consultatif gouvernemental, le travail fait par le GAC et comment est-ce qu'elle est arrivée au GAC, du fellowship au GAC. Alors, pouvons-nous donc commencer avec l'enregistrement? Bonjour aux interprètes, merci d'être ici. Serena prend la parole, vous m'entendez tous? Voilà, maintenant ça marche. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Serena, je viens de la Roumanie. Je crois que je vous connais la plupart au moins. J'ai commencé il y a 3 ans à Bruxelles. C'était ma première fois à l'ICANN. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer avec l'ICANN. J'avais lu quelque chose sur Internet. Et puis après, dans la première réunion, j'ai commencé à participer du GAC comme fellow, bien entendu. Je m'asseyais en arrière et je me disais, nous n'appartenons pas au GAC. Mais oui, la Roumanie avait un membre destiné au GAC, mais... nous ne sommes pas exactement un membre actif. Alors, moi, je me suis dit, eh bien, je vais changer cela. Et à ce jour, je suis membre du GAC. Et voilà, il s'agit d'un comité consultatif qui donne son avis au conseil d'administration de l'ICANN sur des sujets concernant l'impact des politiques publiques de chaque pays, notamment ce qui concerne ce que le GAC fait, c'est justement faire attention un peu à tous les sujets qui puissent intéresser l'ICANN. Le conseil d'administration n'est pas obligé à suivre l'avis du GAC, mais d'après les statuts, s'ils ne respectent pas l'avis, ils doivent dire pourquoi ils ne le font pas et ils doivent effectuer des consultations avec le GAC. À Bruxelles, avant l'approbation des nouveaux GTLD, nous avons passé 3 jours de consultations sur ce que nous appelions les sujets en cours des nouveaux GTLD. Et puis, il y a eu une situation un peu bizarre. C'était pas la pardon. Alors, on est arrivé à un équilibre et alors on a approuvé le programme des nouveaux GTLD. Voilà ce que fait le GAC. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup le gouvernement. Pardon, vous avez fait des commentaires? Moi, je viens de la Roumanie. Vous faites des commentaires sans micro et les interprètes ne vous entendent pas. C'est en Europe, près de la Russie. Pour que vous nous trouviez plus vite sur la carte. Et je crois que le mieux, c'est de répondre à vos questions. Vous avez des questions à poser? Rien? Personne? Très bien. Alors, je vais passer la parole à la présidente du comité de nomination, Wanda. Ah non, pardon, là, il y a une question. Alors, vous représentez le gouvernement auprès de l'ICANN, dit l'un des participants. Vous donnez votre avis à l'ICANN sur les politiques à mettre en place pour voir si elles ont un impact sur les gouvernements et sur les politiques publiques. Mais vous faites cela tout le temps, quand l'ICANN dit qu'il y a une politique à mettre en place, à ce moment-là, vous donnez votre avis au gouvernement pour faire ce qu'il faut pour mettre en place ces politiques. Serena prend la parole en premier lieu. Nous donnons notre conseil au gouvernement, puis à l'ICANN, et puis nous amenons cette décision au GAC. Et le GAC passe cela au conseil d'administration de l'ICANN. C'est des gouvernements vers les Cannes et de les Cannes vers les gouvernements. Et ça fonctionne toujours comme ça. Une personne qui vient de la Russie a la parole. Lorsque nous parlons de la mise en place de politiques dans le cas du gouvernement de la Roumanie, quelle est la procédure? Lorsque l'on revient chez soi, on fait un rapport ou quelque chose sur ton travail ici, sur les interventions de la Roumanie. Comment ça se passe? Je ne comprends pas. Selena prend la parole avant d'une réunion de l'ICANN. J'ai un rapport que je donne à mon ministre sur les questions à traiter. Quelles seront les questions à traiter par le GAC? Des fois, le ministre approuve cela, des fois non. Mais et moi, j'ai un mandat pour représenter mon gouvernement ici dans la réunion du GAC. Puis, je dois faire un autre rapport pour faire en quelque sorte un compte rendu de la réunion. C'est comme ça que ça fonctionne. Un participant prend la parole. J'ai quelque chose à dire. Je crois que le GAC représente les gouvernements. Et que font les gouvernements? Parce que je vais donner un exemple de mon pays, du Pakistan. Les questions ayant trait au gouvernement sont des questions publiques qui appartiennent à la communauté, non seulement des sujets gouvernementaux. Et par exemple... un exemple, les GTLD, les questions liées au GTLD et au guide de candidature. Alors, nous avons un comité multipartite dirigé par le ministère de la Technologie. Là, il y a la participation des ISP, de la société civile, des entreprises de télécommunications. Et s'il y a quelque chose de ponctuel à traiter, nous envoyons un document qui est analysé par le comité et nous établissons les points pour le GAC. Si le GAC l'approuve, il l'envoie à l'ICANN. Voici donc une manière formelle de se communiquer avec l'ICANN et il y a beaucoup de sujets liés au public qui sont informés à travers le GAC. Je crois que c'est une manière plus formelle de se communiquer avec l'ICANN. Tous les gouvernements ayant des demandes de la communauté peuvent canaliser ces demandes de cette manière-ci. Je passe la parole à Wanda. S'il n'y a plus de questions, Wanda Scartesini prend la parole. En premier lieu, bonjour à tous. Moi, j'ai aussi participé du GAC il y a quelques années et l'une des choses importantes à signaler, c'est que le conseil d'administration de l'ICANN doit accepter la recommandation du GAC ou expliquer publiquement pourquoi il ne le fait pas. Voilà pour moi la question fondamentale liée au gouvernement. Et vous ne pouvez pas assurer à votre gouvernement que sa position va être acceptée parce qu'il y a des centaines de personnes. Alors là, bien des fois, c'est un peu compliqué. C'est compliqué que l'opinion d'un des gouvernements soit acceptée par le reste. Mais l'idée est d'arriver à un consensus. Bonjour à tous. Je m'appelle Wanda Scartesini. J'appartiens à l'ICANN depuis 2000. J'ai commencé à représenter mon gouvernement jusqu'en 2004. Puis, j'ai participé du conseil d'administration et puis de la LAC. Je continue à participer des RALO. Au nom de LAC RALO, ma région, les Caraïbes et l'Amérique latine. Moi, je viens du Brésil. Et maintenant, je suis la présidente du NOMCOM. Et je vais vous parler du NOMCOM ou de comité de nomination. pour que vous puissiez comprendre quelle est notre activité et que vous puissiez l'appliquer dans l'avenir ou y participer. Le NOMCOM est un groupe indépendant. Nous sommes tout à fait indépendants. Et comme la TRT, vous savez ce que c'est que la TRT? Suivant l'affirmation des engagements, il s'agit d'un groupe qui fait des recommandations pour le conseil d'administration et pour le NOMCOM, et ces recommandations visent à améliorer la transparence. C'est quand même piège, hein, parce que la transparence sert à délimiter quand il faut protéger les candidats. Nous pouvons parler du candidat. Et au fur et à mesure du processus, s'ils sont acceptés ou pas, ce n'est que le NOMCOM et le candidat qui savent cela. Ceci est fait pour protéger la confidentialité, pour ainsi dire. Mais si le candidat veut dire « c'est moi le candidat », ça dépend de lui-même. Hein? Mais pour nous, c'est interdit de dire le nom des candidats. Il s'agit d'un processus. Nous avons une page. http://nomcom.ican.org. Si vous entrez dans cette page, vous allez voir le programme sur lequel nous travaillons. Vous allez voir le processus. Il y a un calendrier, un chronogramme avec les dates. Et là, vous verrez quelles sont les fonctions ouvertes. En général, ces fonctions sont ouvertes après la réunion. Lors de la réunion, nous faisons des interviews à des candidats présélectionnés. Hein? On est renfermé dans une salle et le processus est le suivant. Les candidats font leur présentation. En général, vers la fin du mois de mars ou quelque chose de similaire. Et puis, nous commençons à analyser les candidatures présentées et le groupe complet va voter. On établit un classement des candidats pour les différents postes à remplir pour le conseil d'administration, pour la GNSO, pour la CCNSO et pour la LAC. On fait une sélection des différents candidats pour tous ces secteurs-là et pour les regroupements et pour les organisations de soutien. Voici donc un processus. Et dès que cette liste est établie, nous commençons la sélection de ceux qui vont appartenir à la liste la plus restreinte, à savoir la liste du conseil d'administration. Alors là, nous demandons l'aide d'une société que nous avons engagée pour cela, parce que nous, en général, on est des ingénieurs ou des choses comme ça. Nous n'avons pas la capacité de faire des interviews et d'avoir une idée claire de la personnalité du candidat, son comportement, sa conduite, etc. Voilà donc pourquoi on a engagé une société internationale chargée de la recherche des ressources humaines. C'est eux qui font l'interview. Ils font la première présélection. Puis nous analysons ces interviews et nous votons encore une fois. Il s'agit donc d'un processus. Nous allons dans les réunions avec cette présélection. cette année. On a 72 candidatures pour tous les postes et 59 seulement pour le conseil d'administration. Cette année-ci, il y a quelque chose de spécifique parce que suivant les statuts, le conseil d'administration ne peut pas avoir plus de 5 personnes de la même région. Et au moins une personne de chaque région. Il doit donc y avoir l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, des participants de l'Europe, de l'Asie Pacifique, etc. C'est obligatoire. Le seul représentant de l'Amérique latine au conseil d'administration est quelqu'un qui est près de finir son mandat cette année et il faut choisir quelqu'un de la région pour le remplacer. Voici le processus complet. C'est un processus assez complexe, un processus qui n'est pas simple parce que dans la présélection, lorsque nous présentons des candidats à la société dont je vous ai parlé, et le GAC aussi nous donne ses commentaires. Bien évidemment, la plupart, c'est des gens très bien pour remplir la fonction. Hein. Nous, on ne dit pas, eh bien, cette personne n'a aucune capacité, aucune qualification. Au contraire, ils sont tous qualifiés, bien qualifiés pour être ici. C'est donc très difficile de faire une sélection entre tous ces gens si doué pour remplir la fonction prévue. Il y a de longs débats et après la réunion, après les interviews, on se renferme encore une fois dans une salle et on va quitter la salle quand la sélection sera faite. Et là, on peut rentrer à la maison. Voici la tâche à faire. Quel est le problème d'une homme-com? Le problème le plus important d'une homme-com sont liés à la diffusion ou à la sensibilisation, à savoir trouver des personnes qui puissent présenter leur candidature à ces postes. Et voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Vous devez penser en premier lieu à vous-même. Pour l'année prochaine, peut-être présenter une candidature et aussi penser, j'ai un ami à qui je fais confiance, qui est bien qualifié pour appartenir au conseil d'administration. Et quand vous venez ici, dans les réunions du fellowship, vous commencez à comprendre quels sont les postes à remplir et à savoir quels sont les postes disponibles au sein de ces groupes. C'est l'occasion, justement, de penser tout d'abord à cette année, hein, parce que l'année prochaine, il va y avoir des opportunités dans le groupe ALAC pour l'Afrique, l'Asie Pacifique et l'Amérique latine et les Caraïbes. Cette année-ci, on fait une sélection de personnes de la région européenne et de la région de l'Amérique du Nord. L'année prochaine, je crois qu'on va démarrer en septembre ou environ. On va commencer avec le processus de sélection des trois autres régions mentionnées pour l'ALAC. Et l'ALAC est un bon démarrage pour ceux qui viennent du fellowship. Parce que en général, dans vos pays, dans vos activités quotidiennes, vous êtes connectés avec différentes personnes et avec les utilisateurs. Et l'ALAC représente les utilisateurs. C'est donc une bonne occasion pour penser en premier lieu à vous-même et puis, je répète, à des gens que vous respectez dans votre pays. Des gens capables de s'unir au conseil d'administration ou de remplir un autre poste. Peut-être vous-même, vous participez au CCTLD, par exemple, ou aux ISP de vos pays respectifs, etc. pensez donc à d'autres opportunités parce qu'elles existent pour l'année prochaine et nous avons besoin de nouveaux visages. C'est très important. Cette fois-ci, nous avons très peu de candidats africains. Et à vrai dire, on a besoin de beaucoup plus de candidats, on a besoin de plus de personnes des régions pour faire la sélection. C'est difficile de faire une sélection entre une ou deux personnes. Il faut qu'il y ait plus de candidats. Par exemple, l'Asie-Pacifique, c'est une région très vaste, très, très vaste. Et il devrait y avoir une représentation suffisante. On a l'Inde, le Pakistan, tout le monde arabe, le Japon, la Chine, les Philippines. Tous ces peuples qui appartiennent à la région d'Asie-Pacifique, il y a énormément de gens. Et nous ne pouvons pas avoir un de ces groupes qui soient représentés. On a besoin de bien plus que ça. Ici, on me dit que je n'ai plus de temps. On me fait signe. Hein? Rod attend ici à ce que nous finissions notre discours. Mais voilà la tâche d'une homme-com. Et je veux vous convaincre que vous êtes capable de participer et d'être sélectionné. Je vous demande donc, s'il vous plaît, de faire attention aux annonces publiées sur la page de l'ICANN concernant le NOMCOM. Pensez à vous-même, pensez à ceux que vous connaissez dans votre pays, dans votre région, des gens que vous respectez et qui puissent être de bons candidats pour le conseil d'administration. Il y a pas mal d'enjeux de l'institution et nous avons besoin de la participation des gens. Si on a de bons candidats, notre institution sera meilleure. Si vous avez des questions, je crois que Rod peut attendre un tout petit peu, n'est-ce pas? Un participant prend la parole. Une question rapide. Merci de votre présentation du NOMCOM. La question est les pays du Golfe, ils sont dans du monde arabe, ils sont dans la région d'Asie-Pacifique. Mais seulement la Chine ou un autre pays de l'Asie, il faut penser Qatar, Bahreïn, Kuwait. Il faut que, si je veux quelqu'un du pays pour le conseil d'administration, comment on fait pour trouver un équilibre? Vanda reprend la parole. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas que on a seulement des candidats du monde arabe. On peut avoir aussi des candidats de la Chine. Mais probablement, on n'a pas tellement, parce que pour des questions culturelles, ils sont un peu plus timides. Hein? Le participant prend la parole. Je regrette de vous interrompre, mais Rod a des obligations plus tard. Mais il y a quelque chose que l'on appelle e-mail. C'est vraiment génial. Et alors, vous pouvez vous communiquer par courriel. Je vais vous donner l'adresse pour que vous puissiez vous communiquer. Vanda reprend la parole. Je serai par là. Donc, si vous voulez, on peut en parler ou même ce soir dans la soirée. Merci beaucoup. Janice parle. Merci, Vanda. Rod Beckstrom.
C'est Rod Beckstrom qui prend la parole. Bonjour. Qui veut chanter Hey Jude? Bon, qui a été hier dans la Music Night hier? Ah bon, très bien. Une bonne représentation. Hey Jude. Bon, nous sommes bien amusés, hein? Ce matin, nous allons parler de tous les thèmes que vous voudrez aborder. Il y a quelque chose que je veux mentionner très brièvement et je peux ensuite répondre à vos questions. Comment je vois l'organisation en tant que PDG, comment je vois, comment je considère la stratégie pour essayer de diriger, d'orienter cette institution. On commence par la Music Night. Pourquoi croyez-vous qu'on a ajouté la Music Night? Parce qu'avant ma période, j'ai fait cela lors de ma première rencontre. Hey Jude, bon, c'est une participante qui parle pour aider les gens à se connaître, à se sentir plus à l'aise, à partager les questions culturelles. Oui, sur Wikipédia, nous avons une communauté à code ouvert. Et même si elle est très ouverte, il y a beaucoup de conflits. Tous les gens, enfin, font apparaître leurs questions politiques, leurs questions, des questions d'ego. Donc, on a commencé par Wikipédia, on a fait cela, on a commencé à utiliser ces une soirée musicale. J'ai commencé avec Jimmy Wales, l'un des fondateurs de Wikipédia. J'ai été présent à l'une de ces soirées. J'ai vu que les gens jouaient de leurs instruments, qu'ils chantaient et que cela permettait d'avoir un instrument collaboratif. Je me suis rendu compte qu'au sein de l'ICANN, il y avait bien des fois beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Donc, je me suis dit, OK, il faut ajouter quelque chose qui nous rende plus humains. En Corée, j'ai pensé à deux choses. J'ai dit que le talent jeune pouvait collaborer pour l'entente mondiale. J'ai parlé de Fantou, qui est un guitariste exceptionnel. J'ai projeté sa vidéo et il est apparu sur scène. Il a commencé à jouer de la guitare et les gens pleuraient dans le public parce que la musique qu'il jouait était d'une beauté extraordinaire, et de voir comment il jouait de sa guitare électrique les différentes mélodies. J'ai ensuite ajouté cette pièce musicale parce qu'elle est liée à la culture. Dans une organisation, vous avez les gens, vous avez la structure et la culture et l'environnement. En tant que PDG, il faut guider le fonctionnement de l'organisation. Mais il s'agit d'une organisation très grande. Ce n'est pas comme lorsqu'on conçoit un logiciel ou qu'on développe un autre type de produit. Cette organisation fait beaucoup de choses quant à la politique. Elle s'occupe de l'éducation. Elle développe la technologie comme le DNSSEC, les technologies fondamentales, les variantes des IDN. Cette organisation a aussi des rapports avec les gouvernements et la diplomatie partout dans le monde. Elle, disons, fonctionne sur un mode d'évangélisation sur les nouvelles technologies, sur le DNSSEC, etc. Si vous regardez un peu la fonction principale, on parle ici du développement des politiques, qui est un processus vraiment très complexe. Et il n'est pas très bien, enfin, coordonné en quelque sorte. Ce n'est pas qu'il y ait une seule méthode pour élaborer des politiques. Nous avons le processus de développement des politiques, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir une influence dans ce processus de beaucoup de manières différentes. Il y a le GAC qui peut y participer quand il le souhaite. Nous avons aussi dans les groupes des partis concernés ou des regroupements, des gens qui viennent, enfin, intervenir ou demander des modifications dans les politiques. Quand j'ai pris mon poste, j'ai observé certaines choses. J'ai vu que le personnel de l'ICANN doit avoir le soutien pour le développement des politiques, mais il ne doit pas, enfin, se dévier de cela. Le personnel doit avoir une place centrale. Quand j'ai commencé, je recevais des plaintes tout le temps parce que l'on disait que les politiques étaient toujours modifiées ou qu'elles avaient enfin des modifications à cause du personnel. J'avais quelqu'un de brillant dans la politique qui avait une personnalité très forte. Moi, j'avais besoin de quelqu'un avec un profil un peu plus bas, avec une forte capacité d'action. J'ai fait venir la parti politique et il s'est occupé de cela parce que tous ces écarts sont disparus. L'autre personne travaille dans l'organisation toujours, mais elle s'occupe de projets stratégiques, ce qui est un travail vraiment extraordinaire, ce qu'il fait. Donc, l'ICANN peut soutenir la question du développement des politiques de façon neutre. J'ai ensuite déterminé que le PDG n'allait pas devenir l'expert en politique de l'ICANN. Et j'ai pris cette décision parce que j'ai dit, si je deviens un expert, je ne pourrai pas diriger l'organisation parce que je vais m'occuper à des choses qui ne me concernent pas en quelque sorte. Je devais m'assurer que le processus de développement des politiques fonctionne, qu'il y ait des progrès, que l'on élimine les problèmes. Donc la seule intervention que j'avais en matière de politique, c'est lorsqu'il y avait un blocage et qu'il fallait éviter ce blocage. Et c'est ce que je faisais. C'était tout mon action en ce sens-là. J'ai eu très peu d'interventions dans ce cas-là. Par exemple, celle de l'intégration verticale où j'ai soutenu la recommandation de l'équipe de l'ICANN de laisser de côté l'intégration verticale où les bureaux d'enregistrement et les registres pouvaient travailler ensemble dans les TLD. Je l'ai fait parce que je suis spécialiste en économie, j'ai toutes ces connaissances et je comprenais que le conseil d'administration n'avait pas le temps de s'occuper de tout cela. Mais bon, ce qui est difficile chez ICANN, c'est que les personnes qui travaillent dans le domaine de la politique, enfin, quand est-ce qu'elles veulent cesser de débattre des politiques? Ben jamais. Jamais. Ils ne veulent jamais finir de débattre des politiques. Donc, si enfin on prend une décision et on se dit, OK, il y a un consensus, dès que l'on commence à mettre cela en œuvre, ils commencent à vous dire, non, ça ne marche pas, le processus n'a pas été transparent, c'est erroné. Il y a toujours donc des plaintes de différents types, mais on ne peut pas diriger une organisation et parvenir à matérialiser les projets si on n'arrête pas ces modifications incessantes et que l'on avance. C'est ce que j'ai fait bien des fois auparavant. Il y avait auparavant des programmes très complexes dont j'ai pu obtenir des progrès. Mais bien sûr, j'ai joué un rôle très désagréable, celui de dire non, on ne va pas faire des TLD avec un seul caractère. Par exemple, lorsque nous avons accepté, adopté les domaines de haut niveau ou de premier niveau à Singapour, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit non, mettons tous des domaines d'un seul caractère. J'ai dit non, nous avons déjà accepté cela. Donc nous avions tout ce processus de développement des politiques qui était vraiment très complexe, décentralisé, sophistiqué. C'était un processus star aussi. Mais il y a d'autre part la question de la mise en œuvre, la prestation de nouveaux services avec les routines et tout cela, comme par exemple pour le cas des nouveaux GTLD. Et il faut que ce soit planifié avec un certain contrôle. Donc, gérer toute la partie décentralisée de l'ICANN qui change constamment, qui reflète toujours les sentiments politiques et combiner cela avec la mise en œuvre, c'est quelque chose de très difficile, vraiment, vraiment. Ce que j'essayais de faire, c'était de trouver le point approprié. Parce que si tout était trop contrôlé, que l'on était trop rigide, nous n'allions pas pouvoir obtenir toute la richesse de l'information provenant du processus de politique. Mais si les processus étaient trop ouverts, la situation devenait chaotique. Lorsque les gens parlaient d'ICANN avant que je ne prenne mon poste, on parlait d'une société au débat perpétuel où les gens débattaient pendant très très longtemps et où ils prenaient trop longtemps à prendre des décisions. Cela a été un apprentissage merveilleux pour moi que d'apprendre à équilibrer ces deux aspects. J'ai fait beaucoup de travail de réseau, j'ai établi beaucoup de travaux, j'établis des actions pour établir des liens. C'est pour cela que j'ai mis la Music Night pour justement que les gens puissent partager leurs valeurs culturelles. On a le Welcome and Lunch où il y a la salle où les gens peuvent se retrouver. Il y a IETF, il y a ICANN, il y a le consortium de la World Wide Web. Nous avons donc tous ces groupes Internet différents qui ne s'étaient jamais rencontrés et qui n'avaient jamais été combinés. Nous avons créé un nouveau groupe qui s'appelle l'Aestop. Et c'est une idée qui m'est venue parce que mon expérience m'a appris que si l'on établit un rapport personnel avec les leaders d'autres organisations, cela consiste à faire un retrait d'une journée et demie. Un jour, c'est trop peu. 5 jours, c'est un peu trop. Donc, il faut se réunir quelque part dans le monde, faire un dîner très agréable entre tous, peut-être 2 ou 3 heures de réunion, ensuite on se réunit le lendemain, puis un dîner, puis ça y est, tout le monde revient à la maison. Et on commence donc la réunion avec les cadres d'ICANN, d'ISOC, de la ETS, du réseau des 3W. Nous avons eu le troisième retrait le mois dernier. Nous le faisons 2 fois par an. En tant que leader, nous voulons créer ce type de groupe qui se réunissent avec une certaine périodicité de travail. Parce que si nous disons que nous voulons le faire 4 fois par an, cela ne va pas parce que c'est trop de voyages. Une fois par an, ça ne suffit pas pour pouvoir établir cette cohésion. Donc, nous avons commencé déjà et nous avons eu notre 3e réunion à New York le mois dernier. Et ces organisations travaillent beaucoup mieux maintenant de façon conjointe parce que nous avons un lien qui nous unit, nous avons une stratégie partagée. Nous travaillons sur les wikis, par exemple, c'est-à-dire comment ils sont coordonnés. Lors de la première réunion, nous avons eu cette cérémonie où nous avons remis les dernières adresses IPv4 du monde parce que les registres membres de ces communautés sont là. Une autre chose que j'ai faite chez ICANN, je ne connaissais personne au sein de l'organisation. Je ne connaissais aucune communauté, même si j'avais travaillé en technologie pendant presque 30 ans. Donc, j'ai fait quelques déjeuners avec des employés choisis au hasard. Et à quoi pensez-vous lorsque je vous parle de ces déjeuners? Qu'est-ce qu'on faisait dans ces déjeuners? On réservait une table dans un restaurant à quelques mètres de notre bureau à Marina del Rey. C'était une table pour 10 personnes. Et on déjeunait ensemble. Et comment est-ce qu'on choisissait les gens pour occuper ces sièges? C'était au hasard. On prenait toute la liste des employés de Los Angeles. On les mettait sur un plan Excel. On utilisait une méthode aléatoire pour le choix. On les choisissait donc, on les faisait sortir du bureau et on voyait qui on allait inviter la semaine suivante. Donc, on déjeunait pendant une semaine, 1h30 et chacun commençait par raconter son histoire, d'où ils venaient, où ils avaient fait l'école, quels étaient leurs passe-temps et ce qu'ils faisaient chez ICANN. Donc, je prenais 10 ou 11 employés pour chaque déjeuner. Et pourquoi je le faisais? Nous avions à l'époque 100 employés à Los Angeles et je savais que si je faisais 10 déjeuners, j'aurais connu tous les employés. La règle était que dans le déjeuner, on pouvait parler de ce qu'on voudrait, qu'il n'y avait rien de structuré. C'est-à-dire, c'était une réunion sûre. C'est-à-dire, si quelqu'un se plaignait de quelque chose, on n'allait pas lui dire « Ah bon, vous êtes plein de cela ». Mais comme je suis le PDG, on ne peut pas me dire « Ah ben, ça c'est un problème, il faut le résoudre ». Je ne suis pas dans cette réunion pour recevoir une liste des choses à résoudre. Je suis là dans cette réunion pour parler tous sur un pied d'égalité. Ça a été une expérience fantastique. Je crois que je suis passée dans toutes les équipes 3 fois et dans les différents bureaux, je faisais la même chose. Je l'ai fait à Bruxelles, à Washington DC, dans ces déjeuners. Voilà donc des exemples dans la manière d'établir certains rapports avec des structures informelles au sein de l'organisation de façon très utile. Certaines, enfin, questions qui se rapportent à ma philosophie de gestion. C'est un défi pour tous ceux qui dirigeraient l'ICANN, parce que le jeu de l'ICANN est un jeu politique aussi. L'ICANN ne peut pas toujours tout faire. L'ICANN abîme tout, finalement, et elle est toujours critiquée. Donc, on a beaucoup plus de travail à faire que ce que l'on peut faire dans des situations, dans des institutions plus petites. Voilà la dynamique des institutions politiques, que l'on parle des gouvernements dans les pays de chacun, qu'il y a des luttes dans les partis ou que les gens débattent dans le Congrès. Et le meilleur conseil que j'ai reçu par Mike Roberts, j'ai été avec lui plusieurs fois sur 2 semaines et à peine j'ai pris mon poste, je lui ai demandé son conseil. Il m'a dit, quoi que tu fasses, on va te critiquer. Donc, ne te fais pas de soucis, tu ignores cela et tu continues à faire ce que tu estimes être correct. Je crois que ça a été un conseil très approprié. Et même lorsqu'on croit que la décision est unanime, chez ICANN, il y a toujours quelqu'un qui commence à se plaindre 2 semaines après. Mais c'est bien, parce que cette ouverture permet d'obtenir de bien meilleures idées en général et un très bon échange d'idées, une productivité vraiment formidable dans les politiques. Alors, je ne sais pas quel autre organisme concevant des politiques peut créer des politiques aussi utiles et de façon si rapide que ce qu'on le voit chez ICANN. Mais je sais que cela a l'air d'être lent, mais si vous considérez le nombre de politiques d'une organisation aussi grande que celle-ci, avec autant de réunions et événements partout dans le monde, le nombre innombrable d'appels, de traductions, des systèmes comme le DNSSC, la gestion de la zone racine, les IDN, tout cela implique une organisation hyperproductive à but non lucratif. Voilà tout ce que j'avais à vous dire de la philosophie de gestion. Je ne sais pas si vous avez une question ou des questions à laquelle ou auxquelles je puisse répondre. Une fellow prend la parole. Deux questions liées entre elles. En premier lieu, quel serait, à votre avis, le défi le plus important à relever pour l'année à venir? Et la deuxième question, quel conseil donneriez-vous pour distinguer la critique typique de l'organisation de la communauté et la critique dont il faut tenir compte? C'est Rod qui prend la parole. Je donnerai au PDG le même conseil qu'on m'a donné à moi. Quoi que vous fassiez, il faut continuer à faire ce que l'on estime correct. Il ne faut pas essayer toujours de plaire aux autres, parce que si on promet trop de choses aux gens, cela ne va pas marcher. Il faut établir des attentes raisonnables. Il faut faire attention en tant que PDG, en tant que membre du personnel de direction par rapport à ce que l'on va faire. La deuxième partie de la question, c'était le défi le plus important pour l'année prochaine. Je crois que le défi le plus important à relever en ce moment, je crois que c'est un défi double. Je crois d'une part que les menaces internes sont beaucoup plus importantes que les menaces extérieures. Ce qui m'inquiète, c'est la dynamique de la culture au sein de l'organisation et ce qui devient les questions de conflit. Cela m'inquiète beaucoup plus que tous les défis de Wicket ou de l'OIT, ces menaces extérieures. Dans le cadre des problèmes intérieurs, je crois que ce système mène vers le chaos. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de ce débat perpétuel, de ce litige, de ces jugements que l'on porte toujours une fois à une autre sur la même décision. Cet équilibre n'est pas facile et on devient impopulaire lorsqu'on essaie de forcer cette clarté par rapport aux décisions parce qu'il y a toujours des perdants. On ne peut pas continuer à lutter pour parvenir à des changements. Le système donc vous mène à l'entropie, au chaos. Il faut donc mettre de l'énergie là-dedans pour éviter ce chaos. Le deuxième problème, c'est ce rétrécissement du conseil d'administration. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient diriger l'organisation et dire à l'équipe, aux membres de l'équipe du CAN, ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas faire que 22 personnes disent à l'organisation ce qu'elle doit faire. Il doit y avoir un PDG. Ce PDG doit pouvoir déléguer des responsabilités et c'est quelque chose de très difficile à faire dans ce domaine. Je crois que dans la transition que l'on mène à bien maintenant, tous les directeurs voudront participer. Et je crois que c'est un moment facile pour essayer de participer un peu plus que l'on ne devrait. Donc, il faut faire très attention à cela. Mais du côté du conflit des intérêts, on a beaucoup avancé avec les experts. Il y a des rapports en ligne. On a fait une première version d'un code de conduite. On a fait des grands progrès. Ces progrès systémiques dans les structures, dans les politiques et dans les documents. Qui ne seront pas inclus dans la culture de l'organisation. Je pense que vous pouvez aider à ce que cela parvienne jusqu'au fondement, jusqu'aux fondations de l'organisation. C'est un fellow qui prend la parole. Je sais que vous avez parlé des défis que le prochain PDG devra relever. Quels ont été les principaux défis auxquels vous avez dû faire face pendant les trois dernières années? Le premier défi consistait l'absence de séparation entre l'équipe et le conseil d'administration. Il y avait une seule liste de distribution et j'ai compris qu'au bout de 6 semaines, il y avait 15 personnes de l'équipe. Je travaillais avec des problèmes que je devais discuter avec le conseil seulement et il y avait 6 personnes, des membres du personnel, il y avait un dialogue constant avec le personnel et j'ai trouvé que c'était chaotique à mon avis. Donc c'était l'un des défis, il faut définir le processus, donc il faut dire bon voilà, c'est le conseil d'administration qui s'occupe de l'adoption de politiques et la stratégie et ensuite il faut s'occuper de la mise en œuvre. Tout le monde doit donc enfin dépendre de moi. Le deuxième défi ici, je n'avais pas l'équipe appropriée pour une organisation qui a en ce moment un budget de plus de 200 millions de dollars pour l'année qui vient. Avec les nouveaux GTLD, ça va être beaucoup plus grand. Donc, nous avons des gens vraiment intéressants et bien, mais ils ne sont rentrés à l'organisation qu'entre 20 et 30 personnes seulement. Donc, ils n'avaient pas les compétences suffisantes pour faire avancer une nouvelle, une organisation aussi grande que celle-là. Le nouveau PDG vient d'une organisation avec une gestion avec la gestion d'un budget énorme de 650 millions de dollars. Donc, on ne veut pas quelqu'un qui travaille avec un budget de 5 millions de dollars et de lui dire, bon, vous allez travailler avec 250 millions parce qu'il n'a pas, s'il n'a pas d'expérience dans ce type de choses, cela va être vraiment stressant. Maintenant, notre PDG est vraiment quelqu'un de très expérimenté. J'ai parlé avec mon équipe de gestion et je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas suffisamment de compétences dans cette équipe pour l'organisation qui existe maintenant. Et nous avons créé une nouvelle équipe de direction et 10 des 18 personnes qui dépendent de moi ont été choisies par l'équipe de direction. L'équipe de direction choisissait et mon vote avait le même niveau que celui de reste des membres de l'équipe de direction. Donc, toute l'équipe de direction a travaillé pour embaucher le personnel et en a pris ensuite des décisions. Mais ma parole était toujours la dernière à être entendue et je le faisais pour éviter d'influencer la décision des autres. Si Joseph le dit, c'est le meilleur pour ceci et pour cela. Les gens disent parfois, bon, il peut être vraiment très bon, mais on commence à être influencé. Donc, les décisions prises ne sont pas impartiales. Si l'on veut éviter ce genre de choses, il faut éviter de présenter sa propre opinion comme la plus forte. De toute façon, il faut que l'on prenne des décisions et parfois, il faut dire, bon, non, on va faire cela. Parfois, les gens sont confus pendant une crise. J'ai dû intervenir parfois, par exemple, lorsqu'il y a eu des problèmes avec le task. Donc, vous savez que parfois, l'équipe était trop fatiguée, il y avait trop d'options. Et moi, je disais, bon, je tranchais, je disais, on va faire cela. Et c'est là que je donnais une orientation en tant que PDG. Et je devais le faire parce que la plupart du temps, on ne le faisait pas. Mais parfois, il fallait que je dise, OK, voilà la voie que nous allons prendre. Un point, c'est tout. Il faut qu'on se mette à travailler. On n'a plus de temps. Voilà donc l'un des défis. Et d'autre part, pour la politique, lorsqu'il y avait ce nouveau débat sur les choses, lorsqu'il y a eu le nouveau GTLD, il a fallu travailler sur toute une série de dépendances dans l'organisation. Et vous, le bureau, le conseil d'administration, vous êtes responsable de ceci. Si vous allez prendre la décision pour chacune de ces choses, nous allons vous donner l'information pour prendre cette décision. Et si vous faites ceci à cette date-là, il faut que vous respectiez tel calendrier. Si vous prenez du retard, par rapport à quelque chose, on va vous montrer jusqu'à quel point vous allez faire prendre du retard à tout le reste du programme. Lorsque j'ai eu ma première réunion, l'un des collègues m'a dit, OK, il y a 3 mois que tu es là, et je lui ai dit, on m'a demandé, comment est-ce que tu vas me donner le GTLD, le nouveau GTLD? Et moi, j'ai dit, pour rigoler, j'ai dit, jamais, ça fait 4 ans que vous disputez à ce sujet. Mais enfin, je leur ai dit, vous voulez une date précise? OK, je vous la donnerai. Vous allez me donner toutes les voix au conseil d'administration. Vous me donnez tous un mandat pour que je fasse votre travail? OK, d'accord. Moi, je ne peux pas vous donner une date parce que c'est votre décision. Moi, je peux m'engager pour que nous, en tant que membre de l'équipe d'ICANN, nous rédigions les documents et ceci et cela. Mais la décision, c'est à vous de la prendre dans l'intégration verticale. Donc, nous, lorsque nous avons changé cela, comme notre calendrier était très serré, nous avons pris cette décision, la communauté n'a pas apprécié, il y a eu beaucoup de commentaires, et le conseil a dû écouter, reconsidérer ce qu'on avait fait. J'ai dit, OK, d'accord, nous pouvons reconsidérer, mais il faut refaire le projet. D'accord, on va retarder ça de 60 jours. Si, il faut le faire, parce que la décision a été remise en question, donc nous avons besoin de plus de temps. Voilà le type de pression à laquelle on est soumise. Je travaillais pour le gouvernement fédéral des États-Unis, je l'ai fait. Et l'un des principaux problèmes lorsqu'on est dans le gouvernement, c'est qu'au législateur, il légifère et il crée des politiques et des politiques et des politiques, mais ils ne les mettent jamais en action, en œuvre, parce qu'il n'y a pas de lien entre le développement de la politique et la mise en œuvre réelle. Maintenant, c'est Janice qui prend la parole. Nous allons avoir une question de participation remote et puis ensuite, nous allons continuer avec la réunion. C'est un commentaire de Fatima d'Argentine et le commentaire dit « Je veux remercier Rod de son soutien au programme de Fellowship et aux Fellows. Merci de votre travail au sein de l'ICANN et de nous avoir rappelé que le modèle multipartite fonctionne bien. » C'est Rod qui prend la parole. Merci beaucoup. Bonjour Fatima. Fatima et Gabi et Dolores. M'ont aidé à écrire mon discours pour les Nations Unies en décembre 2011. Oui, c'est ça? Oui, l'année dernière. Non, 2010.
Nous étions à Cartagena. Je me rappelle qu'on était à côté de la piscine. Et moi, je devais parler dans les Nations Unies 3 jours après. Je me suis dit, mais que vais-je dire? Et ces trois demoiselles brillantes m'ont parlé de l'évolution de l'État des nations d'après le traité de Westphalie qui a créé l'institution. Et puis, il y avait la révolution politique. Je crois que c'était vers la fin du 18e, 19e siècle. Puis, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. On a eu la bombe atomique, on a créé les Nations Unies et on parlait d'une nouvelle évolution, à savoir la quatrième étape. Des fois, on parle du modèle multipartite et des fois, on peut penser à la manière dont les gouvernements peuvent se transformer dans des modèles multipartites parce que je crois qu'ils utilisent des modèles obsolètes. Je tiens à remercier ces trois demoiselles ainsi que les fellows parce qu'ils sont jeunes, brillants, créatifs et ils aident à créer de nouvelles idées, ce qui fait que le modèle puisse fonctionner. Si le modèle est ouvert, on peut partager l'autorité, recevoir l'intelligence de partout dans le monde, de différents domaines en termes géographiques et en termes de spécialité. Merci beaucoup. Vous êtes l'avenir de l'ICANN. Je suis très contente de retrouver le programme des Fellows dans toutes les régions de les réunions de l'ICANN. Merci beaucoup. Janice reprend la parole. Merci. C'est très bien d'avoir reçu ta visite avant la fin de la semaine parce que moi aussi, je tiens à te remercier. Je te l'ai dit de manière privée et je le dis en public. Malgré les allées, les retours, les défis, tu as toujours donné ton soutien au programme Fellowship. Je ne veux pas pleurer, mais tu as été mon soutien pour ce programme. Je crois que nous sommes plus de 400 et tu as toujours donné ton soutien au programme et à moi-même. Merci, merci beaucoup. Nous allons maintenant aller un tout petit peu dehors pour que Rod vous signe le livre. On va faire une toute petite pause dans l'enregistrement et pour la transmission en ligne. Ceux qui sont des participants à distance, sachez que l'on va faire une petite pause. Merci.
more sense of Lash and Olivier.
Okay. I have a suggestion. You might not be able to do it this time. Program that we've been done. Did you want anything for the program?
Can we talk about this? Yeah, because I do want to, but I know that I'm not going to focus right now, but I do want to, Allie. Because, Allie, it's part of what I want to do for the newcomer lounge. So, yeah. Okay, everybody, let's take a seat.
Janice prend la parole. S'il vous plaît, prenez vos places. Oh, vous avez votre photo avec Rod, vous avez le livre. Ah, donc, on a pris le temps d'autres orateurs. Je ne sais pas si tu peux partager un tout petit peu tes idées sur la gouvernance d'Internet. Nous allons démarrer encore une fois la connexion à distance. Je vais m'asseoir. Nous allons continuer avec l'enregistrement Adobe Connect. Bonjour. Je m'appelle Barry Must. Je suis le gérant du Moyen-Orient. Ça fait 6 ans que j'appartiens à l'ICANN et je suis leader sur des questions liées au Forum de gouvernance Internet. Je sais qu'on a peu de temps, de sorte que je vais vous signaler tout rapidement ce qui se passe dans le domaine de la gouvernance Internet et je vais laisser un petit moment pour les questions et les commentaires. Je ne sais pas si vous savez qu'en 2005, il y a eu un sommet de la société Internet qui a eu 2 résultats concernant la gouvernance. Tout d'abord, le Forum de gouvernance Internet qui, depuis 2006, fonctionne avec une réunion annuelle. Et l'autre résultat ayant été produit, c'est ce que l'on appelle le processus d'amélioration de la coopération. Et c'est vraiment un langage un peu compliqué à comprendre, mais l'idée était que tout le monde soit d'accord pour améliorer la coopération, pour qu'il existe la gouvernance sur la base de la parité, dans tout ce lié au rôle et aux politiques d'Internet. Nous avons un processus IGF qui a eu du succès, qui a été réévalué il y a 1 an. Il y a eu un groupe de travail établi dans la Commission de la science, la technologie et le développement des Nations unies pour réviser l'IGF et proposer des améliorations. Ce groupe de travail a conclu avec un rapport ayant été publié il y a 1 an. Cela a été débattu à Genève et nous attendons la recommandation adoptée par l'ECOSOC et l'Assemblée nationale des Nations unies avant la fin de cette année. Il y a encore des débats sur l'amélioration de la coopération. Il y a des consultations que l'on mène sur la question à Genève. Et certains groupes ont pensé que l'amélioration de la coopération devait établir d'autres groupes pour améliorer l'étude. Il y en a qui pensent avoir fait un bon développement et ce qu'il faut faire maintenant, c'est analyser ce qui a été déjà fait et évaluer dans une certaine mesure ce qui doit être fait dans l'avenir pour améliorer la coopération. Voilà donc ce que l'on a fait. Maintenant, je vais céder la parole à Mandy Carver. Je m'appelle Mandy Carver. J'appartiens aussi aux Alliances mondiales. J'ai beaucoup d'informations à vous donner en peu de temps. Le plus important, c'est si vous avez des questions, on peut vous les répondre et nous pouvons vous aider à participer. Suivant d'où vous venez, de votre regroupement, etc. Vous avez entendu parler de l'écosystème Internet. L'ICANN a un mandat et des fonctions spécifiques. L'ICANN possède différentes organisations qui traitent de différents sujets. L'IEGF est l'une d'elles. L'OMPI a trait à la propriété intellectuelle, puis l'UIT qui fait partie des Nations unies. L'ISOC, l'IETF, enfin, tous ces groupes sont séparés, mais ils sont liés entre eux dans notre domaine de travail. Et il y a des groupes collégiés qui travaillent il y a aussi des superpositions comme l'IETF qui donne son soutien à l'ISOC qui collabore avec l'ICANN. Outre le processus de l'IEGF, le forum de gouvernance Internet et l'IEGF suivant va avoir lieu en novembre à Azerbaïdjan. L'ICANN participe toujours de l'IEGF. Il y a là un forum public, une structure plus grande où l'ICANN traite diverses questions. Il y a des panels auxquels nous participons pour ce qui est des nouveaux GTLD, des NSSEC et la sécurité de la racine. Outre l'IEGF, il y a d'autres réunions importantes, de grandes réunions. Peut-être vous en avez entendu parler, WIKIT, une révision des réglementations des télécommunications internationales. Ce sont des traités et des processus gouvernementaux. Il s'agit d'un traité. Et dans notre espace, on débat et on mentionne tout cela. Il y a un débat et entrée aux entreprises de télécommunications. Et le mot télécommunication va inclure Internet ou non, il faut l'établir. On travaille avec les autres regroupements pour informer les délégations des gouvernements. Notre préoccupation sur l'élargissement de la définition. Il va y avoir aussi un forum public des télécommunications qui va être réalisé tous les 4 ans. Le suivant aura lieu en 2013 à Genève. Et là, on va débattre des politiques. Et on va parler de la gouvernance et la politique publique d'Internet. Voici donc le thème central du débat. Je crois qu'il faut s'arrêter là, n'est-ce pas? Janice prend la parole. Vous avez des questions? Léon? Léon prend la parole. Il y a des programmes d'ambassadeurs. Par exemple, l'ISOC a un programme d'ambassadeurs pour l'IEGF. L'ICANN fait quelque chose de semblable. Bacher prend la parole. Nous n'avons pas de programme pour l'IEGF. Nous avons beaucoup de participation des membres de la communauté, du gouvernement, de gérants de CCTLD, des universités. Ils vont à l'IGF, il y a des ateliers, des séances organisées, là même, qui traitent de certains points comme les adresses IP, etc. Mais non, nous n'avons pas de programme spécifique pour l'IEGF. Janice reprend la parole. D'autres questions? Oui, Trace. Tracy prend la parole. J'ai vu que dans la session de week de jeudi matin, elle a été éliminée ou reprogrammée, mais elle est disparue de l'ordre du jour. Il y a un remplacement pour obtenir des documents ou quelque chose sur le week et ce qui se passe avec ICANN. Mandy reprend la parole. Ça a été ajouté à la dernière minute. Il y a eu d'autres programmes. Pour avoir une position. Et ce sont des démarches qui prennent beaucoup de temps. On peut vous donner des informations sur ce qui se passe dans ces espaces. Mais il n'y a pas de document formel. Ni l'ICANN ou les regroupements dont j'ai connaissance. On peut vous parler de certaines suggestions des différents gouvernements sur l'intervention pour ouvrir les ATRT. J'ai une question pour M. Bacher. Je viens de l'Azerbaïdjan. Vous avez dit que vous aviez un groupe au sein de l'IEGF et que des fois, vous considérez le processus d'allocation de nom de domaine. Quel est le panorama que vous considérez? Quelle est la structure de la représentation des locaux dans le débat? Bacher prend la parole. La question, le type de question. Au sein de l'IGF, vous savez qu'il s'agit d'une plateforme ouverte, alors tous peuvent y participer. On peut participer de plusieurs ateliers, de plusieurs séances organisées par différents types de parties prenantes, différentes organisations. Les débats vont depuis des débats techniques, des problèmes techniques comme DNSSEC, IPv6, jusqu'à des niveaux de politique de plus haut niveau. Cela dépend du type d'atelier, du type de session, mais suivant mon expérience, après avoir participé de différentes séances et de différents débats, je peux dire que nous avons des questions de différents niveaux, depuis des politiques techniques jusqu'à bien des fois des questions politiques aussi. C'est assez varié et l'éventail est assez vaste. Janice reprend la parole. Merci. À vrai dire, ce n'est pas la fin de la séance parce que le personnel de l'ICANN est toujours disponible à travers le courriel pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez toujours trouver nos descriptions dans la l'onglet About Us en anglais, où vous pouvez voir toute l'information. Vous pouvez nous contacter par email avec votre nom et le prénom séparé par un point. Je vous encourage à vous communiquer avec le personnel. Utilisez tous les moyens disponibles. Le fait que la réunion soit finie ne veut pas dire que la possibilité de poser des questions soit clôturée. J'ai de suggestions. On a l'atelier d'NSEC, un bon atelier à faire. Si vous y avez avait participé lundi. Aujourd'hui, il y a un atelier de suivi pour justement continuer à traiter de cette question. Le groupe de la stabilité et la sécurité va aussi avoir sa séance. Peut-être cela peut vous résulter intéressant. Et il y a beaucoup de questions qui sont apparues après la séance d'hier. Je crois que vous pourriez profiter de cette session. Mandy nous a dit que cela a déjà commencé. C'est une réunion qui a lieu de 8h à 9h. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Je vous rappelle de la salle destinée aux nouveaux venus, le Newcomers Lounge, de 11 à 12h30. Je ne vais pas être disponible parce que j'ai une réunion, mais pendant le reste de la journée, je serai à votre disposition, ainsi que les anciens fellows. Bonne journée à tous.